La Collective, c'est une émission hebdomadaire.
C'est à plusieurs, c'est ensemble.
C'est local,
c'est un mélange, La Collective.
C'est des interviews,
de l'actualité,
des chroniques, des reportages,
de la musique.
C'est divers et c'est varié.
La Collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Nora, je suis avec Lison. Bonjour Lison.
Bonjour Nora, bonjour tout le monde.
Nous sommes ensemble pour vous présenter la tournée du Cré d'Avent, un rendez-vous assez spécial qui a eu lieu sur la place de l'église il y a 3 ans, en compagnie d'un vieux monsieur de Cré qui s'appelait André Nel. On s'était réunis autour de lui pour recueillir des souvenirs sur la place de l'église, comment c'était avant. André, c'était un homme à la fois très discret et un témoin précieux de l'histoire de Cré. Il avait une mémoire exceptionnelle, on peut dire une mémoire photographique. Et il est né en 1926. Son père était préparateur en pharmacie, à la pharmacie Rosier, qui n'existe plus actuellement, mais qui était sur la place de l'église. Donc c'est un témoin direct de la vie de l'époque. Il a aussi travaillé à la Caisse d'épargne, c'est un monsieur passionné par l'électricité, la mécanique. Si vous voulez le découvrir, il y a une vidéo qu'a réalisée Jacques Mourican sur lui qui s'appelle « Le papy bricoleur » sur sa chaîne Vidéo Val-de-Drôme. Cette vidéo a totalisé 587 000 vues, presque 600 000 vues, rien que ça. On vous mettra le lien sur la page de l'émission La Collective. André est décédé en janvier 2025, à l'âge de 98 ans. Paix à son âme, et grâce à la magie de la radio, on va pouvoir l'écouter aujourd'hui en studio. On voulait conserver cette mémoire sur l'histoire de Cré, l'histoire du quotidien, les magasins, les commerçants, les travailleurs. C'est pourquoi, avec Lison, on avait organisé une première rencontre sur la place des Moulins, et comment c'était la place des Moulins avant. Et on a enchaîné avec cette deuxième rencontre sur la place de l'église. On s'était retrouvés sur la terrasse du Côté Café. Et à chaque fois, il y avait entre 20 et 30 personnes qui venaient soit écouter les histoires, soit eux et elles aussi partager des anecdotes. Lison, tu es d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait aucune prétention historique? On ne voulait pas être dans l'exhaustivité?
Tout à fait, hein, on était là pour se rappeler les bons souvenirs.
Oui, donc c'était raconter les commerces qui étaient là dans les années 30-40, du temps de l'enfance d'André, et ensuite... dans les années 60, 70, 80, que toi tu as connu, Lison, et tes amis, soit de votre enfance ou de l'époque où vous avez travaillé, et donner un aperçu de ce qu'était la vie quotidienne sur cette place de l'église. Alors Lison,
oui.
Pour te présenter, pour dire déjà comment on s'est connus, auditeur, auditeurice, c'est quand on sort de Cré et qu'on va vers l'Intermarché, au niveau du pont de la Lozière, on voit...
Le pont Bossu, on dit, c'est le pont Bossu.
Le pont Bossu. On voit une façade sur la gauche où c'est encore écrit...
Hôtel Porte-Montségur.
Hôtel Porte-Montségur. Tu vas nous raconter l'histoire derrière ce...
Eh bien, c'est là que je suis née, où mes parents avaient la ferme, une activité où on vendait le lait, les volailles, toutes plumées, toutes vidées, prêtes à cuire... quand ce qui concernait le lait, mes parents avaient beaucoup de clients de Cré. On vendait le lait à ferme et les médecins de Cré recommandaient à venir chercher le lait chez nous parce que ce lait était indemne de tuberculose. Donc on avait beaucoup de succès, quoi. Voilà. Mais c'était la campagne à cette époque-là. Il n'y avait aucune construction dans ce coin-là. Là où il y a les HLM à droite, à gauche, avant d'arriver là, sur Intermarché, il n'y avait pas aucune construction.
Donc, lotissement La Prairie, c'était La Prairie réellement.
Voilà, c'était La Prairie. Ah ben oui, 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 bien sûr. En allant à la piscine, tout ça, là, c'était que des champs. Hein.
Oui, c'était que des champs. La ville elle-même s'arrêtait où à l'époque?
Alors, au carrefour de La Prairie, il y avait le relais Shell qui n'y est plus. Dans le triangle, il y avait le relais Shell. Voilà, qui a été démoli, qui a été racheté pour faire un carrefour plus facile d'accès. Quoi. Voilà.
Oui, oui. Et donc, toi, tu as grandi sur cette ferme?
J'ai grandi sur cette ferme. Quand on a eu besoin de moi pour travailler à la campagne, on m'a enlevé d'école et au boulot.
Et oui.
C'était comme ça. On ne demandait pas.
Et on a été voisine d'André à des époques différentes. Donc,
oui.
Parce qu'il habitait dans le lotissement juste à côté. Mmh. Moi, j'ai été sa voisine.
Oui.
Donc je l'ai connu plus tard, sur le tard, et, oui. et voilà, c'est ce qui nous a réunis pour organiser oui. cette rencontre et oui. lui donner la parole.
André a fait construire sa maison en même temps que moi, dans le lotissement Allier, d'ailleurs, qui s'appelle lotissement Allier. Et c'est pour ça qu'on était connus. J'ai eu son papa aussi, qui était mon plus proche voisin, le préparateur en pharmacie. Il était mon papa, son plus proche voisin, mm-hmm. avec sa sœur Arlette aussi. Voilà.
Très bien. Alors, on va présenter cette émission, qui sera en deux épisodes, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur cette place de l'église. Il y avait un nombre de commerces incroyable. Donc, on a décidé, dans le premier épisode, de passer en revue la rue de l'Hôtel de Ville et déborder un peu sur la rue de la République. Et dans le deuxième épisode, la semaine prochaine, on revisitera la place Julien, où se trouve l'atelier vélo, et on fera le tour de la place de l'église. Alors, on démarre. Imaginez qu'on tourne le dos à l'église, on regarde le bar tabac, la civette, et à gauche, le premier local qui est là, qui est devenu depuis récemment le café des enfants, ce qui était historiquement... Enfin, avant le café des enfants, ça a été fermé pendant tout un moment, il y a eu Style Éco, des vêtements, il y a eu...
Des vêtements encore avant.
Une supérette aussi, et voilà. Mais surtout, la maison Argot. C'est quand même un haut lieu de Crest. Maison Argot, on connaît la place Argot, là, qui a été inaugurée récemment. Quand on est au Central Vapeur, on voit place Argot. Il faut imaginer que ce bâtiment Central Vapeur, le shed, la galerie de commerce qui se trouve là, cordonnier, les meubles. On va jusqu'à la rue de l'Hôtel de Ville et tout ça, c'était un seul bâtiment. Et c'était, la maison Argot, c'était une fabrique de soutane.
Oui, de vêtements ecclésiastiques. Ouais, c'est voilà. Ça. Toutes les aubes, les gens achetaient les aubes. Avant, c'était des robes en dentelle. Hein, on était des petites mariées quand on faisait sa communion.
Et on va écouter André qui nous parle de la maison Argot.
Cet atelier de couture, de tissu, était tenu par monsieur et madame Argot, propriétaire à Crest. L'atelier était donc dans ce grand panneau de mur. Ça partait donc du quai et ça allait jusque sur la place de l'église, la propriété. Alors, côté place de l'église, c'était le magasin. Et puis, en bout du magasin, qui était déjà très long, il y avait tout cet atelier en longueur. Et les ouvriers, les ouvrières, sortaient de l'atelier où ils rentraient par le quai. Ils faisaient des travaux pour Crest, mais ils expédiaient aussi, on l'a vu sur une photo, des colis dans d'autres villes. Pour qu'il y ait une centaine d'ouvriers, il fallait quand même qu'il y ait des clients. Il y en avait qui s'occupaient de l'église. Il y en avait qui s'occupaient de l'école Saint-Louis de l'autre côté de la Drôme. Ils fabriquaient donc ces fameuses chasubles qui se portaient par-dessus le vêtement que portait le prêtre. En général, c'était une robe à l'époque. Et ces chasubles pouvaient être blanches, mais pouvaient être en couleur selon le genre de cérémonie.
Les avis-dribles pour Noël, il y avait des santons de 70 cm de haut. Que les principaux centaures, il y en avait 4 ou 5 au maximum, dans les deux vitrines, ça restait tout le mois de décembre. Ils faisaient aussi des foulards pour les scouts, et ils en faisaient aussi pour on appelait ça les éclaireurs du temple. Ça faisait un peu tiquer de faire un vêtement pour le temple, à l'endroit où principalement c'était pour l'église. Ça plaisait pas à tout le monde. Dans les années 36-38, par là, les gens étaient sectaires. Il y avait cet effet de magasin en deux épisodes, là. Madame Delhomme vendait de la laine, du tissu, des vêtements. Il y a eu une catastrophe. Mademoiselle Delhomme habitait au-dessus avec sa maman, qui était une personne très âgée. Ils avaient des fenêtres côté Rico Comer, la rue qui est sous Crest, quoi, en quelque sorte. Et cette pauvre grand-mère s'est approchée de la fenêtre, elle est tombée. et elle est décédée brusquement comme ça. Et ça a eu un froid dans le quartier.
C'était un souvenir tragique de cette époque. Et c'est aussi très émouvant de réentendre la voix d'André,
c'est sûr,
qui, qui nous manque beaucoup et qui a une diction parfaite et qui a une mémoire hyper précise. Même à, il avait 95 ans à l'époque, c'est incroyable. Alors, on va revenir au bar Tabac La Civette. Et Lison, tu vas nous raconter l'époque où il y avait un endroit de création fabuleux, les décors Chalamel.
Oui, avant, à l'ancienne maison de la presse, maintenant La Civette, il y avait Maurice Chalamel, qui était décorateur. Alors, c'était un personnage assez atypique. La Vespa, les cheveux au vent, l'écharpe qui flottait, tout ébouriffé. On le voyait passer d'encré. Et il faisait beaucoup de décors pour l'Éden, le Vox, quand il y avait des spectacles, les fêtes des écoles, l'école, je pense, de danse de Monique Bresse. Il y avait aussi, il faisait des décors quand il y avait la revue Tichadel qui venait. Je ne sais pas si vous, les Crétois s'en souviennent, mais c'était une revue où il y avait, c'était un petit French Cancan.
Ah voilà, oui, oui.
Donc il y avait toujours beaucoup de succès, voilà.
Et il fabriquait tous ces décors où est le bar tabac actuellement.
Oui. Voilà.
Et oui.
Ça, c'est un reportage qui m'a été fait par Marie-Ange, une Crétoise.
Oui, qui vit maintenant à La Rochelle et qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Pour rendre hommage à Maurice Chalamel et sa Vespa, et aussi à André qui adorait l'opéra, on va écouter un extrait de La Traviata, Brindisi, l'air le plus connu.
Bellezza il fiora e là fuggevole ora si ne avria voluta liviana i dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente Travò, saprò di vivere il tempo mio giocondo. Tutte follia nel mondo, ciò che non è piace. Godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore è un fior che lascia un cuore né più si può godere.
Et cet air italien qui nous brindisi, qui nous parle de boire et d'amour, et c'est vrai qu'on picolait pas mal sur la place de l'église. À l'époque, on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, on va continuer notre petite énumération. Donc, on a parlé de la maison Argot, de la bonnetterie de Madame Delhomme. Je vous propose maintenant de se placer face au côté café, qui avait eu la gentillesse de nous accueillir sur sa terrasse pour notre rencontre. Vous voyez, vous identifiez où c'est, il y a eu Délice Bar. Et pendant très longtemps, ça a été un magasin de vêtements tenu par Monsieur Bosque et Monsieur Villemain. Et on va écouter André nous en parler.
Alors, vous se s'appuyons. Après, on trouvait dans quel ordre les vêtements de Monsieur Bosque et puis de Monsieur Villemain après. Monsieur Villemain, ils vendaient des pantalons. Et c'était la mode des pantalons de golf. On les appelait comme ça. Et ils faisaient des pantalons de 40 cm de large quand ils étaient pliés. Ça faisait des grands tissus. C'était la mode du tissu immense pour les pantalons. Par contre, ce monsieur Villemain, pendant la guerre, au niveau de du bureau de Monsieur Mariton à Bamba. C'est la place de quoi, là? Sainte-Marie. Il y a une place là en fond. Et au fond, la place, il tenait le bureau de distribution des cartes d'alimentation. Alors, une carte de pain, carte de viande, carte de... tout ça. Et tous les mois, il y avait une queue, évidemment, tous les Crétois passaient là-bas pour prendre leur ticket d'alimentation.
Et oui, ça nous replonge dans cette époque où les gens n'avaient pas grand-chose et heureusement qu'il y avait les tickets. Mais après-guerre aussi, lisons.
Oui, parce que moi, je suis née en 49 et j'ai à la maison encore les tickets que maman avait, surtout pour être prioritaire pour la pharmacie, pour le lait, pour la première alimentation des bébés. Donc, je les ai toujours. Donc, elle s'en est servie encore 2-3 ans après, en 49.
Et donc, ça a permis à beaucoup de gens de...
Eh bien oui, je suis certaine. Oui,
oui, tout à fait. Alors, on va continuer notre petite promenade. Là où il y a Optique Constant actuellement, ça a été longtemps un magasin de... Enfin, un photographe.
Oui, M. Monastier, qui a été notre voisin avec André Nel dans le lotissement.
Oui.
On était à côté. Et c'était avec son épouse qui était une fille Guns. Qui était une fille Guns et qui était venue par la forêt de Sous. Je me souviens...
Monsieur Burus.
Oui, voilà.
Le propriétaire de la forêt de Sous.
Elle était employée et, voilà, et c'était deux commerçants, franchement, toujours sur le pas de la porte, en train de discuter ou papoter avec quelqu'un, mais un accueil chaleureux.
Et oui. Vraiment, il faisait des articles de pêche aussi, en plus de, la photographie.
Alors, tous les pêcheurs venaient là, hein, et puis avant de boire le petit coup au Paris à côté.
Et oui, alors le café de Paris, le fameux, ça a toujours été le café de Paris.
Oui.
Là, pour le coup,
oh, oui, je pense,
ça
n'a
pas changé. Il y a eu différents propriétaires, les frères Zanettaci, Robert Béranger, Michel Deplante. Moi, je remarque Madame Poulet, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes compte tenu des commerces sur cette place. Et cette Madame Poulet, elle ne s'est pas contentée de gérer le café de Paris.
Oui, avant, elle était à l'épicerie centrale, à côté.
Juste à côté. Et donc, tu connais un personnage notamment...
Ah oui, au Paris, il y avait Jésus. Est-ce que les Crétois se souviennent de Jésus? Il y avait une peintre crétoise d'adoption, Lily Manin, qui l'avait peint. Et je pense que son portrait était à l'hôpital, à l'ancien hôpital. Et Jésus, tout le monde lui payait son coût. Et la ville s'est beaucoup occupée de lui aussi. Oui, oui, il n'était pas sans... il était très gentil, ce monsieur. Je le revois, mais comme il était tout barbu, on l'avait... appelé Jésus, et je pense me rappeler que son nom, c'était Poyer, son nom de famille, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà.
Donc, on allait au café facilement.
Oui, parce qu'à cette époque-là, il y avait de l'argent. Les gens n'hésitaient pas à aller boire un coup, et puis tout le monde payait sa tournée. Tout le monde payait sa tournée. Voilà.
Et il y avait un groupe de 10, chacun payait sa tournée.
Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas le contrôle pour quand on repartait en voiture. Il n'y avait pas le contrôle
d'alcoolémie. Pour replonger dans cette époque et aussi pour rendre hommage à André qui adorait Marcel Pagnol, on va écouter un classique de Fernandel. Fernandel qui était bien sûr un acteur fétiche de Pagnol et aussi chanteur. Ici, avec ce classique, La caissière du Grand Café.
V'là longtemps qu'après la soupe du soir, de dessus le banc où je vais m'asseoir, je vois une femme, une merveille, qu'elle est brune et qu'elle a les yeux noirs. En fait, femme, je m'y connais pas d'état, mais je me dis, en voyant ses appâts, sûrement que des beautés pareilles, je crois bien qu'il y en a pas. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. De dedans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. Elle a toujours le sourire, on dirait une femme en cire, avec son chignon qui est toujours bien coiffé. C'est la caissière du Grand Café. Entourée d'un tas de verres à pied, bien tranquille devant son encrier, elle est dans la caisse, la caissière, ça fait qu'on n'en voit que la moitié. Et moi que déjà je l'aime tant, je dis tant mieux qu'on cache le restant, car si je la voyais tout entière, je deviendrais fou complètement. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Et quand j'ai des sous pour mieux la voir, je rentre prendre un café noir, tout en faisant fondre mon sucre. Pendant une heure, je la reluque, avec son chignon qui est toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café.
Ça chantait dans le studio sur Fernandel. Alors, vous êtes toujours en compagnie de Lison et moi-même, Nora. On vous refait vivre la place de l'église comme elle était avant, dans les années 30-40 et jusqu'aux années 60-70-80, grâce à deux témoins. Le premier, c'est André Nel, qui nous a quittés en janvier dernier, un grand monsieur. Il est né en 1926 et les sons qu'on a enregistrés avec lui l'ont été à l'été 2023. Mais grâce à sa formidable mémoire, il a pu nous restituer des... comme si on y était. Et toi, Lison, tu nous racontes... Ouais.
Tout à fait. André, franchement, c'était une personne exceptionnelle. Jamais j'ai vu quelqu'un...
Et très discret.
Oui.
Et en même temps, des tas de choses à raconter.
Oui, c'était le voisin idéal. Un jour, j'avais ma chaudière qui fumait. Il est vite venu me le dire, ça fumait noir.
Oui.
Il est venu vite me dire, disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fume bien noir sur ton toit.
Et oui. Et en fait, l'idée de cette émission, c'est qu'on bavardait chez lui. Et il se met à me parler de la rue Archinard. Et il m'énumère un tous les commerces qu'il y avait dans la rue Archinard. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut enregistrer. Donc là, on reprend où on en était dans la rue L'Hôtel de Ville. Il y a longtemps eu Yves Rocher. Maintenant, c'est à gauche de Café de Paris. Maintenant, c'est des savons à Béa. Et pendant de nombreuses décennies, ça a été une boucherie. Et je vous propose d'écouter André qui nous parle d'abord de la boucherie à l'époque où elle s'appelait la boucherie de Fesses.
Là où est Yves Rocher actuellement, c'était la boucherie de Fesses. Et un jour de Pâques, par exemple, sur toute la façade, il y avait des chevreaux ou des agneaux pendus. Et ce monsieur de Fesses, c'était aussi un fameux bouliste. Le dimanche après-midi, les boules.
Et voilà, le boucher bouliste. Ça, c'était de Fesses. Et toi, Lison ?
Alors, après de Fesses, il y a eu monsieur et madame Curtil. Voilà. Et après, c'était la maison Sibille, Alain et Marie Sibille. Et bien, avec mon frère, il était apprenti boucher. Et moi, j'y faisais la caisse. Je faisais la caisse le samedi. Samedi matin, je faisais la caisse. J'avais deux papiers, les notes d'Alain et les notes de Marie. Et on faisait l'addition. Ben, on n'avait pas de machine. Hein, on calculait. On faisait son addition. Donc, j'encaissais.
Et sur
pour Pâques. Pour Pâques, justement, Alain Sibille avait remis au goût du jour les bœufs de Pâques. Donc, sur la place de l'église, entre l'église et la cure, il exposait les deux bœufs qu'il allait tuer le lundi des rameaux, voilà, pour les bêtes qu'on allait manger pour Pâques, 8 jours avant.
Donc, les deux plus beaux bœufs...
Oui, et pour cette époque-là, je peux vous dire que deux bœufs... C'est qu'il y avait de la clientèle. Hein, pour écouler deux bœufs, ça ne se passe pas comme ça.
Oui, les gens mangeaient beaucoup plus de viande.
Et puis, il y avait plus d'argent aussi, je pense. Les gens étaient plus aisés, oui.
Et il y avait aussi un marché aux bestiaux à Creil,
dire. Oui, de l'autre côté du pont. Il y avait donc M. Chiza, qui était un marchand de bestiaux connu et reconnu à Creil, puisqu'il y avait aussi la boucherie Chiza, qui était le bas de la rue Archinard, où après, il y a eu M. Olani, puis après M. Vitos.
Et donc, ce marché aux bestiaux, il avait lieu tous les combien ?
Il me semble que c'était un lundi, ça je ne sais plus trop te dire, mais je dirais que c'était le lundi, parce qu'après, les bêtes allaient à l'abattoir.
Et oui.
Et le lundi, c'était le jour où on tuait à l'abattoir. Voilà.
Et alors, sur ce monsieur Chiza, son chauffeur, tu n'avais pas une petite anecdote ?
Son chauffeur, c'était Vignal, qui habitait en dessus de la boucherie Sibille. Et il était toujours avec son petit caniche, mais il était assis sur les bancs de pierre. Parce qu'à cette époque-là, la place de l'église n'avait pas été refaite. C'était des bancs de pierre bruts.
Voilà. Et monsieur. Ça devait être beau.
Voilà. Et Monsieur Vignal était, il était là, il discutait, bien sûr. Après, il s'en rappelait. Et c'était l'occasion de se faire payer un petit coup, soit au Paris, soit au tonneau, bien sûr.
Et voilà. Oui, on en parlera
oui.
dans la prochaine émission.
Ah d'accord, voilà, bah, c'est bien.
On retourne sur la rue de l'Hôtel de Ville. On était à Yves Rocher, qui est maintenant des Savons. On va passer au magasin de jouets d'enfants, qui s'appelle Histoire d'enfants, qui a longtemps été une épicerie centrale.
Oui, c'est là où a été Madame Poulet.
Voilà.
Et avant, c'était Madame Raspail.
Oui.
Oui. Elle avait un fils, le fils, je me souviens, il s'appelait Richard. Après, si elle avait d'autres enfants, je ne savais plus, mais Madame Poulet, je le revois même.
Et oui, je te propose d'écouter André là-dessus.
Ah oui, maintenant c'est Histoire d'enfants. Oui. Et à côté, maintenant c'est un marchand de jouets, qu'est-ce que c'est mis ? Et c'était les Doc Lyonnais. C'était comme le casino, les petits casinos qu'on voyait en ville, pour les petites maisons économiques, il y avait le Doc Lyonnais. Et un jour, le fils du Doc Lyonnais, qui devait avoir 4 ou 5 ans, 6 ans peut-être, il avait un petit vélo avec des roues stabilisatrices. Et il se promenait dans la rue, là. Il arrive une voiture qui s'arrête devant la pharmacie, là-bas. C'était Monsieur Chenu. Monsieur Chenu fabriquait du ciment à Oust, avant que ce soit des grosses usines qui s'en occupent. Et ils se connaissaient. Monsieur Chenu, dans sa voiture, voit le petit, il dit, mais tu sais piloter ton vélo maintenant, je vais t'enlever les roulettes. Et le gamin qui lui dit, et tu vas me faire casser la gueule.
Ça, c'était toute la verve de André pour raconter ses anecdotes. Et on continue. Juste à côté, il y a une porte cochère, très belle porte cochère. Un lieu qu'André a bien connu puisqu'il habitait juste au-dessus avec ses parents et sa sœur. Le père d'André, Gabriel Nel, était préparateur en pharmacie, ce qui à l'époque impliquait bien plus de responsabilités qu'aujourd'hui. On va écouter André nous raconter des petits souvenirs de cette porte cochère et de la pharmacie Rosier, qui était à l'époque la grande pharmacie de Cray, avec sa belle façade en bois. Vous l'observerez quand vous passerez. Si vous prendrez le temps de l'admirer, c'est là où se trouve actuellement le beau magasin Pierre et Merveille. Donc c'est une devanture en bois. André, à toi la parole. Retour dans les années 40-50.
Ah, la porte cochère, elle était souvent ouverte à moitié. Il y avait un petit portillon qu'on mettait ou qu'on enlevait pour pas que les chiens rentrent par là-bas. Le samedi en particulier, les gens de la campagne qui venaient faire leur commission arrivaient avec un vélo, ou mettre le vélo, on le rentrait dans la porte cochère. Hein. Et des fois, il y avait 4-5 vélos là. Mais maintenant, c'est souvent fermé.
Mais comment ils repartaient avec leurs courses, avec le vélo ?
Mais ça dépend. Ceux qui étaient bien à droite, montés sur leur vélo, mais les autres accrochaient leur sac, leur cabas ou guidon du vélo, ils partaient à pied, poussaient leur vélo qui leur servait de caddie. Et il y avait quelquefois des sacoches au vélo, oui. Ah oui, on est arrivé en 36 ici, et mon père a travaillé là, à la pharmacie, pendant 30 ans, jusqu'en 66. Et il avait déjà 25 ans de métier. Ça faisait une carrière un peu longue. Et dans le Porsche, on avait la permission d'y garer notre moto. On avait une moto à l'époque. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce Porsche ? Ah ben, il y avait une descente dans un tas de caves qui étaient sous la pharmacie, qui se prolongeaient jusqu'aux maisons qui sont après, derrière, en direction du quai. C'était plein de caves et aussi de canaux pour les canaux d'eau de la Drôme qui servaient à faire tourner des machines ou à monter de l'eau aussi. Il y avait un tas de canaux qui servaient de force motrice. Et tout ça, ça a été abolie, démolie dans les années 60 par là. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le porche. Nous, on habitait au-dessus, au deuxième étage. Et c'est du deuxième étage. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Lanvario et qui était le frère de Lanvario de Cray, marchand de chaussures. Chez le marchand de chaussures, on disait, il disait lui-même qu'il met un pied chez Lanvario, en sort deux, chaussé comme il faut. Et le samedi, son frère arrivait d'Istres, il était aviateur, militaire, il prenait un avion, à l'époque, dans les années 45-46, on prenait un avion pour venir en permission. Alors l'avion, évidemment, il ne pouvait pas le poser à Cray, il allait le poser à Valence. Mais comment faire pour avertir son frère qui était là? Ben, il passait sur Cray en rase-motte. Et en montant sur le toit, là-haut, on voyait la moitié de l'avion qui passait à la verticale. Et alors son frère, à ce moment-là, s'il était sur le gouvernement, on voit qu'il venait sur le gouvernement, il ouvrait une porte de garage, il sortait sa voiture, en 45 on pouvait rouler de nouveau, et il allait chercher le frangin. Et le lundi matin, il le ramenait au terrain d'aviation.
Alors, si on revient sur le métier de ton papa, préparateur en pharmacie, en quoi ça consistait à l'époque? Parce que c'est assez différent d'aujourd'hui.
À l'époque, ils faisaient des cachets, des comprimés, à la demande pour chaque personne. Le médecin faisait une ordonnance. Allez faire marquer ça à la pharmacie et puis avaler vos comprimés, avaler tout ça. Et ça, d'un malade à l'autre, ça pouvait être très différent. Il fallait faire le médicament pour une personne, à l'unité.
Il donnait aussi des conseils?
Ah oui, comme tous les gens de métier. Mais enfin, je me rappelle des conseils pour les bébés. Des fois, les mamans venaient, « Oh, mon petit, il a les fesses toutes rouges. » Rincer les couches une fois de plus. C'était la solution. Parce qu'on économisait tout. Vraiment tout.
Au premier étage, la radiothérapie.
La radio. Il y avait du matériel. Quand on était dans la voiture de la pharmacie, on allait faire des radios à domicile en pleine campagne. On ramenait les radios proprement dites. On les développait là, comme on développait les photos à l'époque. Et puis, quand la radio était sèche, deux jours après, le patient pouvait emmener sa radio à son médecin.
Merci André pour ce témoignage précieux de cette époque. On arrive maintenant rue de la République, à côté de Pierres et Merveilles. Sur la gauche, on remarque une autre façade en bois et une vieille enseigne aux lettres dorées. Je trouve ça toujours fascinant d'observer les signes du passé sur les murs. Et cette enseigne dit J. Fétaz. C'est un lieu où on a eu le restaurant Franche Ripaille, qui a fermé malheureusement au début du Covid. C'était un resto très sympa. Aujourd'hui, c'est un magasin de t-shirts. Mais revenons sur cette enseigne. Lisons, qui était ce J. Fétaz?
Alors, tout au départ, c'était Jean Fétaz, le papa de Jacques Fétaz à l'heure actuelle. Voilà, ça a été un commerce qui a duré très très longtemps, puisqu'il y a eu les deux générations ont tenu ce commerce de tissus et de très beaux tissus. Et Jacques Fétaz m'a dit encore il n'y a pas longtemps, si ça n'avait pas été vos parents, on aurait crevé de faim pendant la guerre. Parce que mes parents, à la campagne, ben, ils avaient des œufs, il y avait des poules, voilà, en échange de tissus. Monsieur Fétaz donnait des tissus, maman donnait un poulet. Voilà, c'était tout un commerce. Et ça, Jacques, il me l'a dit il n'y a encore pas très longtemps, et vraiment, ça m'a touchée. Et qu'ils disent, oui, si ce n'est pas été la famille alliée, on aurait crevé de faim.
Et oui, c'est touchant. Oui, c'est très touchant. Ouais. Ouais. Et surtout qu'ils le disent 80 ans plus tard.
Ben oui, parce que je crois que Jacques, il doit avoir 93 ou quelque chose comme ça. Quoi. Alors, c'est vieux.
Et oui. Et donc, c'est les tissus, on le voit. Alors, il y a une époque, c'était Franche Ripaille,
mais
ça a arrêté. Avant le Covid, et On voit au fond du local, il y a une estrade, donc c'est typique des magasins de tissus.
Bah oui, on déroulait parce qu'ils vendaient des toiles de matelas aussi, parce qu'on refaisait les matelas avec de la laine. Voilà, c'est ça, c'était pas les matelas qu'on achète maintenant. C'était donc il fallait dérouler ces gros rouleaux de toiles de matelas.
Et oui.
Donc il fallait de la place.
Ouais. Il y avait 10 employés, je pense. Hein, ça tournait.
Il y a toujours eu. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne me souviens pas. Mais
je te propose d'écouter André sur Fétas Tissus et aussi sur le magasin qui se trouve à gauche, qui est actuellement un tattoo shop, un local de tatouage, et qui a été le magasin des chemises Point. Et André, tu vas nous parler de Fétas Tissus.
Alors, Monsieur Fétas Tissus, il était né en 1899, je ne sais pas pourquoi je le sais. Et il a vendu des tissus, du linge de toilette, enfin, pendant longtemps. Son fils avait pris un peu, je crois, mais ça n'a pas duré après. Après Fétas, il y avait Monsieur Point. Il faisait des chemises sur mesure. Et quand quelqu'un... Et il parlait en patois. Les gens de la campagne qui avaient bien l'habitude de parler patois, ils n'étaient pas gênés par les patois. Il y en a qui donnaient des conseils. Il faut que les chemises soient assez longues pour cacher le béquillou. Là, je l'ai entendu, ça. Il faut dire qu'à l'époque... Il n'y avait pas de slip, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y avait que la chemise. Mais... Et puis alors, ce monsieur Point, son fils avait repris l'affaire, Albert Point. Et puis le petit-fils, Pierre, aussi quelque temps. Et alors, oui, ils étaient tous pompiers. Pas le petit-fils, mais le père et le fils étaient pompiers. Et le jour de... la fête de Saint-Ferréol, tous les pompiers venaient sur la place, ils dressaient leurs pompes, tout leur matériel, ils arrosaient la rue, et puis en finale, ils faisaient lancer leur jet jusqu'à la croix de l'église. Et alors, pour distribuer ses ordres à tous ces pompiers, il y avait un pompier à côté de lui, avec un clairon. Alors, dis ça, et il jouait une mélodie au clairon, il fallait que tous les pompiers sachent de quoi il s'agissait. Il n'y avait pas de téléphone portable. On en était loin.
Et non, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais il y avait de la solidarité, toi.
Oui, beaucoup. Monsieur et Madame Point se sont beaucoup occupés du foyer des anciens. Et donc, ils organisaient les repas, ils organisaient des parties de cartes, des sorties. Et à cette époque-là, le foyer des anciens, il était chez Chris, maintenant. Après, il y a eu la caisse d'épargne et après, il y a eu le foyer des anciens.
Et oui.
Et là, c'était dans les années, ma fille n'était pas née, donc c'était avant 71. Voilà.
Très bien, merci. Alors, on va repartir avec André. André, il avait la passion de la mécanique, de l'électricité.
Oui.
Et on va aller rue Courcomer. On quitte un peu la rue La République, où il y a actuellement le Fab Lab. Et un point qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que les canaux d'ancrage, c'était une chose très importante. Il y avait énormément de canaux. Il y avait des canaux sous la rue qu'on dit piétonne aujourd'hui, des moulins à aubes.
Alors, je peux dire que mon père, qui a travaillé pour la ville de Cré, en tant que pour travaux publics, avec M. Charles Armorin, l'ancien maire, il m'a toujours dit, la ville de Cré, dessous, c'est un gruyère.
Et oui.
C'est un gruyère. C'est pour ça que je me rappelle de ça.
Et l'eau servait aussi à alimenter des ateliers, etc. Et
la tannerie, les tanneries Fabre.
Oui. Et là, comme on est au Fab Lab, on va apprendre ce qu'il y avait avant, grâce à André. Il nous a parlé tout à l'heure de la force motrice grâce à l'eau de la Drôme qui passait sous. Je propose qu'on aille rue Courcomer, où actuellement il y a le Fab Lab et où anciennement il y avait un atelier de menuiserie.
De l'atelier de M. Monry, qui avait son magasin là, en face de Tabardel. Et l'atelier était là-bas. sur 3 étages, il y avait des machines-outils qui tournaient grâce à l'eau du canal. Il y avait une grosse roue en dessous du niveau de la rue, bien entendu, et ça faisait tourner. Et en plus, ça éclairait l'atelier. Alors, pour éclairer l'atelier, il y avait donc une dynamo qui fonctionnait avec l'eau du canal. Et au plafond, ils avaient mis 2 fils sur des petits taquets, 2 fils électriques nus. Et pour que la lampe fonctionne, il y avait la lampe, 1 fil d'un mètre, 1 bâton pour le tenir droit, et au bout, 2 parties en fil de fer métallique, donc, qui étaient reliées aux 2 fils. Quand ils voulaient la lumière, ils accrochaient les 2 fils, les 2 anses sur les 2 fils. Quand ils n'avaient plus besoin de lumière, ils n'accrochaient que sur 1 fil. Et voilà, une installation électrique qui a duré jusqu'en 60, au moins.
On va rester dans le sujet de la lumière et l'électricité. On va traverser la rue, là où se trouve actuellement l'agence Guy Hoquet. Historiquement,
oui, c'était le lieu de la force électromotrice du Vercors qui alimentait en électricité toute la région. L'ancêtre d'EDF, oui, et il faisait les installations. Parce que dans les années 60, il y avait encore des maisons où il n'y avait pas la lumière. Alors, quand la personne se décidait à mettre la lumière, il venait là, à ce bureau. Et depuis ce bureau, ils emportaient tout ce qu'il fallait. Ils faisaient l'installation complète à l'intérieur de la maison et ils branchaient sur la ligne électrique qui passait en façade, là. Il y avait un monsieur qui était chef de chantier, monsieur Blanc. On l'appelait Blanc la tache parce qu'il avait une petite tache vineuse, là, sur la... Alors, c'était Blanc la tache. Il y avait un nommé Méjean avec lui. Enfin, ils étaient 4 ou 5 personnes à pouvoir faire des installations et à réparer aussi dans la rue s'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Quand on vous disait qu'André avait une mémoire photographique, alors on arrive à la fin de cette émission, on a parcouru la rue de l'Hôtel de Ville et un bout de la République. On va terminer avec un dernier commerce où il y a eu historiquement la vaisselle Lantôme et qui se trouvait où, Lison ?
Alors, l'angle de la rue Commer. Tout à fait l'angle de la rue Commer. Voilà.
Et Lantôme, une famille de l'Escoulin, connue pendant la Résistance.
Tout à fait, oui, oui.
Là aussi, je vous renvoie aux vidéos de Val-de-Drôme de Jacques Mourican.
Et donc, Madame Yvonne Lantôme s'était mariée avec Jules Caillé.
Ça, André va nous en parler.
Ah, d'accord.
Je te propose de l'écouter et puis après, tu nous en parles.
Et encore, après Point-le-Chemisier, il y a la rue qui descend sous Cré, et il y a aussi, juste après, le magasin Lantôme qui vendait des assiettes pour le ménage, etc. Et ce magasin Lantôme, la fille faisait donnait des leçons de dactylo. Et puis elle s'était mariée avec un monsieur Caillé, électricien automobile, qui habitait au bas de la ville. Et alors, il arrivait en vélo, à midi, il mangeait là. Puis un beau jour, on entend un bruit de... Mais qu'est-ce que c'est ça ? Il arrive en moto, mais une moto qui ne pétaradait pas. Une moto qui fusait. On a compris tout de suite. Il avait enlevé le moteur à essence de la moto. Il avait mis un moteur électrique, une batterie de voiture, et il avait assez de courant électrique pour venir de chez lui jusque chez son épouse. Et ça, c'était pendant les années 40 et quelques. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Et voilà, sur ce magasin Lantôme, donc toujours la passion d'André pour la mécanique et l'électricité. Toi aussi, tu as des souvenirs. Tu as pris des cours de compta ?
Oui, Madame Caillé était une école privée.
Et bien sûr, on payait, c'était privé. Et on était toujours 16-17 élèves par cours. Elle faisait sténo, dactylo, comptabilité, et les trois. Et c'était une femme très, très gentille, très, très belle. Elle avait des yeux bleus, d'un bleu, mais alors magnifique. Et elle avait eu deux filles, Baba et Arlette, qui étaient aussi une brune, une blonde, qui étaient très belles. Et elles sont, je sais, décédées toutes les deux, hélas.
Ah, ouais. Oui.
Mais et... Vas-y.
À l'époque, tout le monde se connaissait. C'était un village. C'était...
Ben oui. Oui, tout le monde se connaissait. Mais il n'y avait pas d'incivilité. Hein. Tu te garais, même si tu t'es garé un peu de travers, oh, pff, personne ne te disait rien. Hein. Ça, c'est tout,
oui.
Ça a tout bien changé, tout ça. Cette ambiance.
Mais sur cette place de l'église, particulièrement, il y avait un côté familial.
Eh bien, je pense que les gens des campagnes, ils venaient à créer. Les, je ne sais pas, vous prenez Montclar, Beaufort, tout ça. Il y avait les cars qui les amenaient. Donc, ils faisaient leur course principale dans les petits villages. Il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de...
Et oui.
Voilà, donc ils trouvaient dans le centre-ville. Et puis, c'était la sortie. On venait à Cré, au centre-ville, avec le chapeau. Ah oui, on ne manquait pas d'être élégant ce jour-là, c'était important. C'était comme ça pour toutes les foires aussi. Les foires étaient très importantes. Voilà. En particulier, celle de Saint-Pierre et Saint-Ferriol. Mais tous les mois, il y avait la foire. Il y avait aussi la foire aux dindes, je crois, le 21 décembre. Il y avait des foires spéciales, en plus des foires de fin de mois.
Donc, énormément d'occasions pour les gens de venir, d'acheter.
Bien sûr.
Ça explique que tous ces commerces tournaient bien.
Les commerces travaillaient, bien sûr. Il y avait du monde. Il n'y avait pas de grande surface. Donc, les gens venaient s'habiller chez les petits commerçants.
Voilà. Oui. Oui.
Hélas, ça les a tués.
Bon, on fait revivre cette époque avec cette émission. Je vous propose un petit intermède musical en clin d'œil à notre fête emblématique à Cré, rue Saint-Ferréol par Guy Matteoni. Bon, c'est la rue Saint-Ferréol, la rue fameuse à Marseille, mais on retrouve bien l'ambiance festive. On arrive à la fin. C'était trop bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on reprend. On vous donne
avec plaisir. Oui. Avec plaisir.
Ah oui, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va toujours écouter des extraits d'André Nel.
Bien sûr.
Tu seras là, Lison.
Oui, bien sûr.
Pour poursuivre cette histoire de la place de l'église.
Je vais en profiter pour réfléchir un peu parce qu'il y a des moments où j'ai des petits creux, moi aussi.
Ah, mais toi aussi, tu as une super mémoire et tu as tout un tas de souvenirs et d'anecdotes.
Ben, c'est obligé parce que je les ai vécues. Alors quand même, on n'oublie pas une partie de sa vie. Voilà.
Oui. Merci en tout cas.
Merci Nora, j'ai apprécié ce bon moment. Très sympa.
Et moi, je remercie aussi Thomas Emery qui m'avait donné un coup de main pour l'enregistrement quand on l'a fait sur la place de l'église. Et... toi, tu voudrais peut-être remercier tes amis, Marie-Ange.
Voilà. Marie-Ange, Maryse, Marie-Ange, Maryse, Paul, mon frère, je peux le citer, qui m'a donné quelques compléments. Et puis, je pense que c'est... Et Stéphane Pelou. Ah, Stéphane Pelou, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est un vieux crétois. Et là, il a quelques ennuis de santé, mais il sait aussi beaucoup de choses. C'est pour ça que j'en ai profité pour lui demander.
Oui. Merci. À la semaine prochaine.
Bonne semaine.